Armstrong, What a Wonderful World, quel beau monde dans l'espéranto, une philosophie, bien sûr, Claude Piron.
Je ne sais pas si on peut dire une philosophie. Vous savez, le monde de l'espéranto est beaucoup plus divers que notamment les journalistes ne l'imaginent. Hein. Il y a un peu de tout. Il y a
Vous
des
avez
gens.
une dent contre les journalistes qui ne parlent pas
Bien
assez
sûr.
souvent de l'espéranto.
Mais bien
Hein.
sûr, oui. Mais
C'est
moi,
pour
je
cette
trouve
raison que nous
extraordinaire que
faisons
l'espéranto
cette
existe dans le
émission.
monde entier, que dans pratiquement toutes les villes du monde et dans beaucoup de villages, il y a des personnes qui savent l'espéranto et qui l'utilisent régulièrement, et le grand public ne le sait pas. Donc, si le public ne le sait, le grand public ne sait même pas que cette langue existe et qu'elle fonctionne et qu'elle donne absolument satisfaction à ceux qui l'utilisent. Alors là, pour moi, il y a un problème d'information. Pourquoi ce fait, qui est parfaitement vérifiable, n'est-il pas connu? Au point que même des linguistes, qui sont des spécialistes des langues, ne le savent pas. Alors, c'est pas seulement les journalistes, c'est probablement l'école, c'est toutes sortes de choses, mais il y a
Mais c'est
quelque
une
chose.
langue enseignée à l'université.
Dans certaines universités, oui. Mais alors, vous disiez une philosophie, il n'y a pas tellement une philosophie, je crois qu'il y a une mentalité. Je crois que on ne peut pas être dans ce monde de l'espéranto, dans ce réseau de relations où on a des contacts intime, d'égal à égal avec, je sais pas, un Coréen, un Iranien, un Argentin, sans que petit à petit il se crée une sorte de sentiment patriotique à plusieurs niveaux. Vous disiez tout à l'heure, l'espéranto n'a pas de patrie. Si, il a une patrie, c'est le monde. Il y a un sentiment d'appartenance planétaire, de patriotisme planétaire qui s'intègre très très bien avec le sentiment patriotique national et le sentiment patriotique régional. Hein. Et de ce fait-là, cette habitude du contact où chacun respecte chacun, où au fond chacun dit à l'autre, moi je veux pas t'imposer une langue compliquée avec des exceptions, etc. Pourquoi toi qui n'es pas de langue française devrais-tu te creuser la cervelle pour apprendre à dire des chevaux, à dire insoluble plutôt que irrésolvable qui te vient spontanément à l'esprit? Ce serait pas sympa. Apprends quelque chose d'aussi régulier, facile que possible, de très universel, puisque le fonctionnement du cerveau est universel, certains le nient, mais l'expérience de l'espéranto prouve que c'est tout à fait vrai. Un Esquimau, moi je connais un Indien Cherokee avec qui je parlais en espéranto, mais il déduit le sens des mots de leur construction exactement comme un Japonais, un Chinois ou un Afghan.
Reste l'alphabet.
Pardon?
Reste l'alphabet pour
Alors
un
il y a
chinois,
l'alphabet, mais vous
pour...
savez, l'alphabet, attention, hein, dans le monde entier, on apprend l'alphabet latin. En Chine, les élèves chinois à l'école primaire commencent par l'alphabet latin et ne passent au caractère chinois qu'après une ou deux années où ils ont appris à écrire le chinois en caractère latin. Au Japon, ils commencent par les caractères japonais, mais dès je crois c'est la troisième ou la quatrième année, ils sont obligés de commencer à apprendre l'anglais, que 1 sur 1000 arrivera à connaître suffisamment pour se débrouiller, les autres n'arriveront pas, et l'anglais s'écrit en caractère latin. Alors c'est plutôt le seul groupe important de pays où l'espéranto est très peu répandu, c'est les pays arabes. Et là, je ne crois pas que l'alphabet soit pour quelque chose, parce que tous les arabes qui vont à l'école apprennent ou l'anglais ou le français, donc sont obligés d'apprendre l'alphabet latin. C'est la
Et
même
quels
chose
sont les
pour.
pays où l'espéranto est le plus pratiqué? Est-ce que vous avez des statistiques?
Oh, des statistiques, c'est difficile, mais il y a c'est la Bulgarie et la Pologne. En général, moi je me demande des fois si ce n'est pas la Chine. D'après mes correspondants chinois, il y aurait en tout cas 1 million de Chinois qui savent l'espéranto. Et c'était effectivement intéressant de voir quand vous voyez un annuaire d'espéranto, vous voyez la langue est représentée dans énormément, énormément de villes. Et il y a en Chine des villes de 500 000 ou je sais pas moi, 40 millions d'habitants dont personne n'a entendu parler ici, et où un cours d'espéranto se donne à 10 000 personnes en même temps.
Au standard de Mordicus, il y a déjà de nombreuses réactions, Lydia.
Beaucoup de réactions. Je commence par un fax parce que c'est un auditeur très attentif qui nous dit, au début de l'émission, on a compris que les mots qui se terminent par A sont féminins et
Non,
ceux qui
c'est
se
faux.
terminent par O sont masculins. Alors comment c'est possible que Fonduo traduise la fondue?
Alors c'est une très très grave erreur, on n'a jamais dit ça. D'ailleurs, c'est faux de dire les mots qui se terminent. Hein. L'espéranto ne fonctionne pas. Ce n'est pas des catégories. Comme en français, vous avez des mots qui sont des noms, des substantifs, d'autres qui sont des adjectifs, d'autres des verbes, ce sont des catégories. En espéranto, vous avez un concept, et ce concept est exprimé par une racine. Par exemple, vous avez la racine fondu, qui correspond au concept de fondu. Si vous dites fonduo, vous employez ce concept en tant que nom, la fondu. Si vous remplacez ce O par A, vous dites fondua, et c'est l'adjectif qui correspond à fondu. On pourrait par exemple dire fondua vespero, une soirée consacrée à la fondue. Il n'y a pas d'adjectif en français pour fondue. Si vous mettez i, vous avez le verbe à l'infinitif. Donc fondui, c'est manger une fondue. Et on pourrait dire, venu, tu vas la fondue, kunni. Venez, est-ce que vous voulez prendre une fondue avec nous? Donc, c'est comme ça, et ce n'est pas du tout, il n'y a pas du tout de féminin en espéranto.
Non, mais ce qui a été dit dans le reportage, c'était qu'on pouvait utiliser, je crois, A et O sur les prénoms pour qu'on puisse.
En féminin et en masculin.
Ah, pour les prénoms, oui. Mais les noms propres sont d'une catégorie à part dans toutes les langues.
Oui. Alors, Jean-Loup Godin, que vous connaissez, nous dit qu'il a appris l'espéranto sur Internet en 3 ans, et maintenant il enseigne à Genève, à l'Uni Populaire, l'espéranto. Donc en 3 ans, on peut faire beaucoup de progrès.
Et je crois que le net a beaucoup contribué à l'évolution de l'espéranto. Oui, hein, c'est un outil important.
C'est la deuxième langue utilisée sur le net après l'anglais.
C'est magnifique comme progrès de la langue, parce qu'on a l'impression que c'est une langue qui s'éteint, ce qui est faux.
C'est une impression. L'espéranto, depuis 1887, l'espéranto n'a jamais cessé de progresser. Sauf pendant la Deuxième Guerre mondiale en Europe, où il a été persécuté, mais et encore.
Dominique nous demande si derrière l'espéranto, il y a toute une philosophie, on l'a déjà dit, à laquelle il faut à tout prix adhérer, dit-elle, comme pour les salutistes.
Non, absolument pas. Absolument pas. Mais c'est vrai que je n'ai jamais rencontré de fascistes qui parlent espéranto ou de gens partisans des dictatures. Il y a quand même l'idée, le dialogue est meilleur que la force et que la violence. Je crois que si on n'a pas cette idée-là, on ne va pas s'intéresser à l'espéranto.
Claudine nous dit qu'elle a des problèmes de difficultés d'oreille. Est-ce qu'elle peut apprendre l'espéranto?
Bien sûr. Alors justement, par rapport à l'anglais, par exemple. L'anglais est une langue extrêmement difficile pour l'oreille, parce que vous avez des distinctions extrêmement fines, notamment au niveau des sons voyelles. La différence entre « bad » et « bed » est très petite, ou entre « bit »,« bet »,« bat »,« bat ». Les sons voyelles sont très différents. Quand en espéranto, il y a « a », « e », « i », « o », « u ». Alors même si vous prononcez A, E, I, O, U, on ne risque pas de confondre.
Là, vous imitiez un Américain en train de parler espéranto, c'est cela.
Raymond nous appelle pour nous parler de la Mévo, une femme poétesse à Genève, la plus grande poétesse en espéranto, dit-il, qui a même traduit des psaumes de Calvin en espéranto. Alors
Mad Mévo. C'est donc Madeleine Stakian, j'ai le droit de... Mévo, ça veut dire mouette.
Mouette, voilà.
Donc c'est le pseudonyme qu'elle a utilisé, mais il y a très longtemps. Moi, je l'ai connue quand j'étais étudiant, quand j'étais à l'école d'interprète dans les années 50. Et elle a effectivement écrit beaucoup de poèmes, elle a traduit des chansons, elle a traduit des psaumes, elle a traduit des tas de choses en espéranto. Une langue qu'elle possède très bien, avec beaucoup de talent, mais je ne dirais pas que c'est la plus grande poétesse. Par exemple, la poétesse tchèque Eli Urbanova, je crois, a quand même un rayonnement plus grand que Mévo, qui est surtout connue en Suisse. Et il faut dire qu'il n'y a plus rien d'elle qui a été publié depuis au moins 50 ans.
Hein. Mais ce que ce témoignage nous apprend, c'est qu'il y a une poésie en espéranto, oui, des chansons, on les a entendues tout à l'heure dans l'émission, qu'il y a des films, on l'a entendu dans le reportage de Lydia.
Et on nous dit aussi qu'il y a 119 revues dans le monde en espéranto.
Oui, j'en ai là quelques-unes. Là, une revue, je vous montrerai là, une revue brésilienne à propos d'un groupe. Une revue japonaise, il y a tout. Ceci, c'est une revue pour jeunes qui est publiée en Bulgarie, mais qui, dont le, comment dire, la rédaction vient du monde entier.
On attend vos témoignages au 021 653 70 70, le fax 318 19 19, ou tapez mordekis@rsa.ch. Regarde Frédéric, qui a gagné? Le Brésil, 2-1. Oh.
Toute la soupe.
Ils y prennent tout en la soupe. Regarde dans la chambre sous le lit.
Regarde où est la chambre sous le lit.
Trop délicate pour vivre.
Trop délicate pour vivre.
Les pianistes qui veulent faire de la musique.
La pianiste qui veut faire de la musique.
Connaître ma vie et pour l'apprendre, devenir mon ami. Mais pour me comprendre, il aurait fallu au moins ce soir pouvoir surprendre le chemin d'un de mes regards, prise de mes temps. De mes premiers accords, et pour me comprendre, il faudrait connaître mes nuits, mes rêves d'amour, et mes longues insomnies. Quand vient le jour, la peur d'affronter la vie. Il y a peut-être quelque part un bonheur dont j'aurais eu ma part. Dommage, dommage, j'aimais tant certains paysages. Pour me comprendre, il faudrait la je pourrais, il faudrait l'aimer plus que moi, et je vous dirai que je n'y crois vraiment pas. Mais pour me comprendre, il faudrait avoir rencontré l'amour de vrai. Après, à quoi sert de vivre encore un jour?
Au début, l'espéranto ne m'intéressait pas. J'avais entendu une amie qui le parlait bien. Quand elle téléphonait, je l'entendais des fois parler en espéranto. Je me disais, quelle drôle de langue. Et puis un jour, j'ai lu un petit article dans un journal qui racontait, oui, qui parlait de l'idéal de fraternité de cette langue. Et je me suis dit, ah tiens, c'est mon idéal. Alors, je me suis dit, je vais m'y intéresser. Et j'ai commencé par le cours par correspondance de Claude Gacon, un cours vraiment très intéressant qui...
Et que vous avez là.
Que j'ai là, oui, et qui a été remanié.
Ah, vous pouvez le lire, c'est joli.
Elementa curso de Esperanto por Franz Lingvanoi.
Donc c'était votre premier contact avec l'espéranto.
Alors c'était mon premier contact. Et ensuite, j'étais élève de Stéphane dans le centre culturel à La Chaux-de-Fonds.
Et aussi, j'étais aussi élève de Claude Gacon aussi. Et ce qui était fantastique, c'est que j'y allais tous les week-ends et on ne parlait que espéranto là-bas. J'ai fait beaucoup de correspondances avec des pays, toutes sortes de pays, en Estonie, en Tchéquie, en Croatie, au Canada. Enfin, j'ai plusieurs correspondances aussi en Amérique. Mais depuis que je suis à la retraite, alors maintenant je me mets à réapprendre plus profondément parce que j'aimerais bien un jour pouvoir enseigner cette langue.
Vous seriez pour l'enseignement de l'espéranto à l'école?
Pas obligatoire. Parce que quand quelque chose est obligatoire, il perd de son attrait. Mais je serais vraiment pour qu'on l'apprenne à l'école. Parce qu'en Suisse, ce serait vraiment une bonne solution, vu que quand on veut parler à des Tessinois, à des Romanches ou des Suisses-Allemands, moi je ne suis pas capable. Alors si tout le monde avait ce lien de l'espéranto, on pourrait se parler comme ça. La même chose pour toutes les petites langues du monde. On est plutôt pour protéger toutes les petites langues, mais avoir une langue commune pour communiquer entre nous, mais on veut vraiment protéger les ethnies.
Seriez-vous prêt à apprendre l'espéranto? 021 653 70 70, le fax 021 318 19 19 ou encore taper mordicus@rsr.ch.
Da manga rosa quero gosto sim, melão maduro, sapoti, joá, jabuticaba, teu olhar noturno, beijo travoso de cajá. Pele macia, ai carne de caju, saliva doce, doce mel, mel de urso. Linda morena, fruta de destemporana, caldo de cana caiana, vem desfrutar. Linda morena, fruta de destemporana, caldo de cana caiana, vou te desfrutar. Morena tropicana, eu quero teu sabor.
Ai, 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 ai.
Morena tropicana, eu quero teu sabor.
Ai, 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 ai.
Da manga rosa quero gosto e o sumo. Melão maduro, sapoti, joá, jabuticaba teu, olhar noturno, beijo travoso de umbu cajá. Pele macia, ai carne de caju, saliva doce, doce mel, mel de urso. Linda morena, fruta de destemporana, caldo de cana caiana, vou te desfrutar. Linda morena, fruta de destemporana, caldo de cana caiana, vem me desfrutar. Morena tropicana, eu quero teu sabor.
Ai, 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 ai.
Morena tropicana, eu quero teu sabor.
Ai, 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 ai. Ai, ai, ai,
ai. Da manga rosa quero o gosto e o sumo. Melão maduro, sapoti, joá, jabuticaba teu, olhar noturno, beijo travoso de umbu cajá. Pele macia, ai, carne de caju, saliva doce, doce mel, mel de urso. Linda morena, fruta de destemporana, caldo de cana caiana, vou te desfrutar. Linda morena, fruta de destemporana, oi, caldo de cana caiana, vem me desfrutar. Morena tropicana, eu quero teu sabor.
Ai, 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 ai,
ai. Morena tropicana, eu quero teu sabor.
Oh, 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 oh.
Morena tropicana, eu quero teu sabor.
Ai, 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 ai.
Morena tropicana.
Tropicana, c'était à Seo Valença et on s'imagine les atmosphères tropicales en ce moment un peu partout sur cette planète. Claude Piron, vous êtes tombé dans l'espéranto comment et à quel âge?
Bon, mon premier contact, c'est curieux, c'est une chose que j'avais oubliée mais que j'ai retrouvée un jour en revenant d'une réunion en espéranto. C'était en... j'avais 9 ans et j'ai vu une... un petit papier qu'il y avait dans des boîtes de films de la firme Gewart. Je ne sais pas si elle existe encore. Et il y avait, c'était un papier multilingue. Je crois qu'il y avait 12 langues. Il y avait des langues comme le tchèque, le polonais. Il y avait aussi suédois, norvégien, puis français, anglais, allemand, italien, espagnol. Et puis il y avait espéranto. Et ce mot m'a paru très bizarre parce que tous les autres... noms de langues, j'arrivais à les associer à un pays, à un peuple, là, je sais plus ce que c'était. Puis, j'ai regardé ce texte, et il y avait deux titres, un c'était Garantie, Garantio, et l'autre c'était Senpaga, quelque chose. Et Senpaga, j'ai vu d'après le texte français, ça voulait dire gratuit. Je me suis dit, c'est bizarre, qu'est-ce que c'est que... Alors que dans les autres langues, c'était gratis, c'était des gens... Et puis, tout à coup, j'ai eu comme une illumination, ça vient de sans payer. Et je me suis dit, ça, c'est génial. Une langue pour dire gratuit, on forme un mot avec le mot sans et le mot payé. Et à partir de ce moment-là, j'ai eu envie d'apprendre la langue. Mais quand j'en ai parlé autour de moi, personne, mes parents trouvaient ça ridicule, enfin, personne s'y est intéressé. J'ai trouvé dans un grand Larousse un petit résumé de grammaire, toutes les terminaisons, si bien que vers 9-10 ans, je savais déjà les terminaisons, en tout cas des verbes, mais comme je n'avais pas de vocabulaire, je n'avais pas d'exemple de texte, je ne savais rien en réalité. Et puis j'avais, je crois, 11 ans et demi, quand un camarade à qui j'avais parlé de cette langue m'a montré, il avait retrouvé dans un grenier, un volume relié d'une revue de jeunes des années 1920, et dont donc c'était, il y avait 52 numéros, c'était un hebdomadaire, et dans chaque numéro il y avait une leçon d'espéranto. Alors on m'a dit, tiens, ça c'est le truc là que tu cherches, et puis j'ai appris avec ça.
Et comment êtes-vous rentré en contact ou entré en contact?
Alors justement,
avec
ce qui est très très drôle, c'est que pendant 3 ans, j'ai cru, alors un de mes frères a voulu apprendre la langue, et c'était notre langue secrète à tous les deux, hein, quand on voulait pas que les parents ou les copains nous comprennent, on se parlait espéranto. Et je crois 3 ans, en tout cas deux années au moins, j'ai cru que mon frère et moi, nous étions les seuls qui parlions cette langue sur cette planète. Et puis un jour, j'ai vu dans un magazine anglais une annonce avec Club d'Espéranto de Londres, cours par correspondance, etc. J'ai écrit, là je devais avoir 15 ans je crois, j'ai 14. J'ai écrit et puis à ce moment-là, je suis entré dans ce monde extraordinaire qui m'a énormément surpris, puisque tout le monde me disait c'est un vieux truc qui a raté. Alors à 15 ans, j'ai correspondu avec un jeune Chinois.
Oui, parce que quand vous dites ça vous a permis d'entrer dans ce monde, c'est en plus dans le vrai monde.
Oui,
hein,
dans le vrai, dans le vrai monde. Alors j'ai répondu à une annonce, il y avait beaucoup d'annonces de jeunes qui voulaient correspondre, puis j'ai vu un jour un jeune Chinois, 17 ans, moi j'en avais 15, qui cherchait à correspondre avec des Européens, j'ai écrit, et puis on a eu une correspondance très soutenue, on s'envoyait une lettre par semaine à peu près, c'est moi qui lui payais ses timbres par des coupons réponse internationales, parce que, internationaux je crois, parce que...
Il était en espéranto.
Internationaux répondent coupons, parce que le prix de l'affranchissement c'était très au-dessus de ses moyens, c'était un garçon de milieu ouvrier, son père était mineur, quelque part du côté dans le Sichuan. Et c'est lui qui m'a initié à la culture chinoise, et son influence a été tellement forte que j'ai fini par faire un diplôme de chinois. Et quand j'étais traducteur à l'ONU, c'est peut-être en partie parce que j'avais une bonne combinaison de langues, dont le chinois. Donc les gens qui croient que l'espéranto fait du mal aux autres langues, ils se fourrent le doigt dans l'œil jusqu'à l'omoplate. Ce n'est absolument pas vrai. D'une manière générale, l'espéranto donne le goût des contacts avec les différentes cultures. Donc, quand il y a une culture particulière qui vous passionne, qui vous intéresse, vous ne pouvez pas avoir envie d'apprendre la langue. Or, comme l'espéranto vous a donné une sorte de cours de grammaire universelle, c'est un cours concret de linguistique générale, on pourrait dire. Vous avez beaucoup de facilité pour apprendre
les autres langues.
Ah oui, moi je ne m'y serais jamais retrouvé aussi bien dans les participes russes quand j'ai appris le russe, si je n'avais pas eu le fait qu'en espéranto, j'avais des correspondants exacts, mais qui en espéranto étaient d'une clarté lumineuse, puisque tout le système, c'est comme des Legos, c'est très très clair.
C'est en tout cas ce qui en ressort. Il nous reste encore un quart d'heure, 14 minutes pour que je sorte d'ici en disant que je m'inscris à un cours d'espéranto. On reste comme ça, on écoute un peu de musique.
Mais oui.
Et puis on va sur l'historique de cet espéranto.
D'accord.
On n'a toujours pas parlé de son créateur.
Ils achètent au village, ils vendent en voyage.
Ils achètent un village, ils vendent un voyage.
Je n'ai pas peur de la route, faudra voir, faut qu'on y goûte. Des méandres, creux des reins, et tout ira bien. Le vent nous portera. Ton message à la grande ours, c'est la trajectoire de la course, à l'instantané de velours, même s'il ne sert à rien. Le vent l'emportera, tout disparaîtra. Le vent l'emportera. La caresse et la mitraille, cette plaie qui nous tiraille, le palais des autres jours d'hier. Le vent les portera.
Le vent nous portera, c'était Noir Désir. Claude Piron, qui est ce Louis Lazare Zamenhof?
C'était un jeune garçon hypersensible et surdoué. Et c'est son traumatisme, si vous voulez, sa blessure psychique qui est à l'origine de l'espéranto et qui, je crois, lui a donné une âme. Parce que logiquement, une langue disons, inventée ne devrait pas avoir d'âme. Or, l'espéranto a une âme très vibrante, très chaleureuse. C'est un garçon qui habitait dans ce qui est actuellement la Pologne orientale. À l'époque, c'était l'Empire des Tsars, dans une ville appelée Białystok, qui était occupée par quatre ethnies qui se détestaient, se méprisaient, s'ignoraient, qui avaient chacune leur alphabet, leur langue, leur religion. Il y avait les Polonais qui étaient catholiques, écrivaient en caractère latin par les Polonais, les Russes qui étaient orthodoxes, écrivaient en caractère cyrillique par les Russes, les Allemands qui étaient protestants, écrivaient en caractère gothique à l'époque et parlaient allemand, et les Juifs qui parlaient yiddish, écrivaient en caractère hébreu et étaient de religion israélite. Et il y avait énormément de tensions et de conflits dans cette ville. Et Zamenhof, qui était un surdoué, connaissait les quatre langues et trouvait insupportable que dès qu'il y avait une rencontre ou un problème, l'un doit s'incliner devant l'autre pour parler sa langue. Et il s'est dit, on s'en sortira jamais, il faut qu'on aille sur un terrain neutre. Mais alors après, en réfléchissant, il s'est dit, mais il faut que cette langue soit accessible à tout le monde. Il a dit d'ailleurs, il ne faut pas que ce soit une langue réservée à l'intelligentsia, mais qui soit accessible au plus simple des paysans. Alors il a conçu sa langue par essai-erreur, mais il avait 13-14 ans quand il a commencé à la composer. Et il l'a composée, pas du tout a priori comme ça, mais en écrivant des textes, en écrivant des poèmes, en traduisant des textes. Il savait l'hébreu, il a traduit la totalité de la Bible à partir de l'original hébreu. Et d'ailleurs, je crois la meilleure traduction de la Bible, de l'Ancien Testament, en tout cas qui existe, incroyablement fidèle. Voilà. Et puis alors, je ne vais pas raconter toutes les péripéties, mais quand il avait 27 ans, il a essayé de publier ça. Aucun éditeur n'a voulu de son manuscrit. Alors il l'a fait imprimer à ses propres frais. Il n'était pas riche, ça a été pas facile. Et puis alors la langue s'est diffusée dans le monde entier et n'a jamais cessé de progresser depuis, malgré énormément d'obstacles, puisque déjà le tsar a commencé à la persécuter, aussi l'empereur de Chine, Cixi. L'impératrice plus exactement, et puis après je passe très rapidement, mais la dernière guerre toute l'Europe continentale où il y avait le maximum de gens qui parlaient espéranto, où étaient pratiquement tous les stocks de livres, etc. L'espéranto était interdit. Staline a mis la plupart des gens qui parlaient espéranto dans des camps de concentration. Hitler, la même chose, on a beaucoup liquidé. Et puis voilà, mais la langue a continué à se développer.
Qui sont ses meilleurs ambassadeurs?
Je ne sais pas.
Moi, je lis Umberto Eco, le docteur Armand Forel, Jules Verne, Pierre Desproges, Léon Tolstoï.
Oui, c'est vrai. Léon Tolstoï, si l'espéranto a été persécuté en Russie du temps des tsars, c'est parce que Léon Tolstoï l'avait appris et s'était mis à écrire dans la revue de l'époque, la seule qui existait en espéranto à l'époque, qui était publiée en Russie. Et puis, il est tombé en disgrâce et ça fait des histoires. Mais effectivement, il y a eu Jules Verne.
Louis Humberto
Eco,
Olof Palme, enfin bref.
Oui, il y a eu.
Et Jean-Paul II.
Oui, Jean-Paul II a ajouté, vous savez, quand il dit Joyeuse Pâques à tout le monde dans une cinquantaine de langues, il termine par l'espéranto.
Au standard de Mordicus.
Alors, en fax qui nous dit merci pour cette émission, l'espéranto pour qui espère un monde de respect, d'écoute, de dialogue au-delà des frontières, un voyage possible pour chacun, sans distinction. Je me réjouis de l'apprendre et de le parler avec ma petite fille de 10 mois, une langue qui rapproche les êtres.
Très vrai.
Simone nous parle de son grand-père qui était professeur et aussi philosophe au siècle passé à Saint-Imier et qui avait inventé, lui, la parlamento. C'est une langue dont les droits, enfin les principes, sont déposés aux Nations Unies. Excusez-moi. Diane écoute l'émission depuis 3-4 minutes, enfin c'est déjà un petit moment, donc je pense maintenant 20 minutes. Elle veut tout de suite apprendre l'espéranto, elle est pleine d'enthousiasme, etc. Alors là, je lis directement. Justement, comment se fait-il que l'espéranto ne soit pas une langue reconnue et utilisée parlée aux Nations Unies?
Alors là, il faudrait une heure pour expliquer la chose, mais il y a le lobby de la langue anglaise, hein, il y a des documents que vous trouvez dans un livre du professeur Robert Phillipson qui s'appelle Linguistic Imperialism, où il explique qu'il y a eu un plan extrêmement précis mis au point, je crois que c'est dans les années 40, par les pays de langue anglaise pour développer l'anglais au maximum et obtenir que l'anglais devienne la deuxième langue de tout le monde. Et c'est vraiment dans un but politique et économique qui est clairement exprimé dans ces documents. Mais de toute façon, l'espéranto n'a pas d'argent, et l'espéranto n'ayant pas d'argent ne peut pas faire de pub. Alors à notre époque, vous voyez tout de suite ce que ça veut dire. Alors que par exemple, la France dépense 1 milliard par année pour diffuser le français, payer les professeurs de français, etc., donner 1 milliard de francs à l'espéranto, et il a conquis le monde en 2 ans.
Des numéros de téléphone pour pouvoir s'inscrire dans des cours d'espéranto.
Alors c'est un numéro à Genève, donc Claude Piron nous donne 022 740 04 45, donc c'est Esperanto Info, oui. Mais il y a des numéros un peu partout.
Il y a des numéros à Lausanne, etc.
On peut taper Esperanto sur le net et on a plein d'informations. Claude Piron, je vous remercie. Je rappelle le titre de votre livre, Le défi des langues, du gâchis au beau sens. C'est paru aux éditions L'Harmattan.
Si vous souhaitez obtenir une copie de cette émission, appelez maintenant le
026-323-24-24.
Paradoxal ce choix de titre, mais voilà, c'est en anglais, mais c'est Nathalie Schoenberg qui nous a fait la liste des disques, et il restait plus que ce disque-là, voilà, nous n'avions pas le choix. Lydia Gabor signait les reportages.
Saloutonne.
Monique Cortési est notre assistante de production pour les documents, merci à Stéphanie Gauchy. Frédéric Ecoller signait la réalisation de cette émission. Lundi, vous retrouverez Madeleine Caboche avec une très jolie question. Les hirondelles font-elles l'été?
But you, I've said enough, drunk some sweet time.
Voilà, on se quitte avec le paradoxe, c'était Texas, Say What You Want, il est 11h.